19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Eh bien bonsoir chers amis auditeurs, merci de nous suivre et merci d'être avec nous et merci surtout d'être de plus en plus nombreux, vous le savez. Les informés, bonne année encore pour ceux qui sont en retard et qui prennent le chemin en route. Et bien sûr, tous nos voeux de santé et de prospérité. Et puis tout le reste, évidemment, ça va ensemble. Allez, au sommaire, mais au menu de cette émission jusqu'à 20h. D'abord, vous êtes prioritaire au 01 53 48 3000. Vous, auditeurs, vous nous appelez quand vous voulez durant une heure. Les trois sujets qui ont retenu notre attention aujourd'hui. On va reparler, vous savez quoi, des ces maires qui demandent aux familles de sanctionner les familles de délinquants. Vous savez que ça fait scandale, ça provoque des polémiques, les familles se rebellent. Eh bien, on en parlera. Les maires de ville, hein, je parle bien sûr MARIRE. Et j'attendrai aussi vos témoignages au 01 53 48 3000. Nous parlerons de ce fameux remaniement qui, paraît-il, se précise. Remaniement gouvernemental. Alors, va-t-elle sauter ou pas? La grande question se pose aujourd'hui. Elisabeth Borne, évidemment, non. Est-elle sur un siège éjectable? On en parlera. L'immigration, oui, un sujet qui fâche. L'Europe, pas nous, mais l'Europe. Eh bien, on en parlera aussi. Et puis surtout, l'assassinat du numéro 2 du Hamas qui continue, eh bien, tout simplement de creuser l'écart avec cet embrasement qui prend forme tout doucement. Hein, vous savez que le Hezbollah a lancé un appel et puis surtout a sorti un communiqué, mais également, surtout, ils sont en train de se poser la question aujourd'hui. Doit-on partir en guerre? C'est la question qui se pose aujourd'hui. Avec des débatteurs influenceurs qui sont sur le plateau et puis surtout notre invité aujourd'hui, Ena Ablal, qui est avec nous, un artiste, un jeune artiste d'ailleurs de... Ça y est, qui a déjà fait ses preuves et qui prend déjà son envol. Eh bien, on en parle, c'est notre invité aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi. Allez, c'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant et en toute liberté d'expression.
Les informés. L'interview.
L'interview avec un costumier, créateur de mode, qui bosse pour Disneyland Paris, mais pas que. Il bosse aussi pour d'autres productions. Ena Ablal, bonjour.
Bonjour.
Comment ça va?
Ça va très bien, et vous?
Plaisir de vous recevoir ici.
Merci.
Alors vous, justement, Ena Ablal, pourquoi j'avais envie... vous accueillir aujourd'hui parce que vous êtes jeune, vous avez envie d'avancer, parfois vite aussi. Vous avez des signatures de renom qui représentent pour vous, évidemment, des signatures de marque parce que vous êtes dans la mode. Comment vous vous êtes retrouvé dans la mode avant de parler, évidemment, de l'univers Disney, de l'univers aussi également des 100 ans, les 100 ans, le carton des 100 ans, la tournée même d'ailleurs. Oui. Comment vous vous êtes retrouvé dans la mode?
Alors, tout d'abord, c'était une passion que j'avais depuis que j'étais petit. Ça m'a toujours intéressé, cet aspect dessin, cet aspect artistique, cet aspect mode. Je me suis beaucoup vu comme référence des grands créateurs comme Karl Lagerfeld et Jean-Paul Gaultier, que j'ai toujours suivi, que j'ai toujours admiré cette passion qu'ils avaient pour leur métier et ces formes qu'ils pouvaient donner à un vêtement.
Vous les avez déjà rencontrés?
Non, j'ai pas eu la chance de les rencontrer, malheureusement. J'aurais bien aimé surtout Karl Lagerfeld, mais il est parti trop tôt avant que j'arrive un peu dans ce milieu et avancer.
Alors justement, Ena Ablal, vous avez été remarqué très vite, à la fois d'abord pour commencer, avant évidemment de se lancer dans les 100 ans de Disney. Vous êtes retrouvé, comment vous êtes fait repérer à Disneyland Paris? De quelle façon? Parce que c'est vrai qu'on arrive, on est jeune, comme vous, et vous vous faites remarquer en tant que costumier. Comment ça se passe?
Tout d'abord, à Disney, ça commençait par un stage professionnel. C'est simple. Je suis arrivé à Disney en stage professionnel. Après, bien évidemment, hein, ce qu'on tourne dans les domaines, quand on est passionné et qu'on se donne au maximum, on est vite recontacté. Donc, mes premières passes étaient par rapport à un stage professionnel, après l'école.
Et donc, vous vous êtes fait remarquer grâce à ce stage professionnel?
Exactement.
C'est ça.
Et depuis, je...
Vous avez tout donné?
Exactement.
Tout. Et aujourd'hui, vous êtes l'un des costumiers les plus exactement remarqués à Disney, hein, il me semble. Hein.
Bon, on peut dire ça, hein, si on veut rester humble, je suis un des
d'ailleurs,
costumiers.
Ça veut dire quoi, costumier? D'ailleurs, beaucoup de gens se posent la question, ça veut dire quoi être costumier à Disneyland?
C'est vrai que costumier, c'est un mot qui n'est pas assez connu par le grand public.
Parce qu'on peut dire créateur de mode aussi.
Exactement. Le rôle des costumiers est être garant, en gros, pour tout ce qui est le costume des spectacles. surtout à Disney. Donc il y a toute une gestion des costumes, il y a tout un travail qui se fait avec des différents partenaires. Il y a un budget à suivre, il y a des castings à faire pour les artistes, etc. Donc on est un peu le garant de costumes des spectacles.
Vous avez une charte?
Exactement.
Oui.
Et du coup, on doit
sur laquelle vous devez respecter. Hein,
exactement.
C'est-à-dire quoi? Ah, parce que je sais que c'est spécifique hein, les costumes. Hein. Il y a une signature, il y a un truc précis. Là, par exemple, les costumes pour les princesses, il faut que ça soit de telle manière et pas de ça. C'est comme ça, il me semble. Hein.
Exactement. C'est des codes qui sont très spécifiques. C'est des. On va dire des.
Et qui restent uniques. Hein.
Exactement.
C'est, et qui ne c'est faut, des pièces uniques.
Exactement. Et qu'il ne faut pas, justement, dénoter, etc. Chaque personnage a son rôle qui est très précis, qui est très défini. Et qu'il faut respecter, justement, suivre cet univers Disney qui est magique et qui fait rêver. Et c'est pour ça aussi, aujourd'hui, Disney a autant de succès. C'est parce que les codes, ils ont toujours été respectés.
C'est toujours des costumes en permanence, ça a changé en permanence?
Oui, toujours.
Toujours.
Toujours, exactement.
C'est quoi la récurrence? Tout le temps, c'est quoi?
Ça dépend vraiment la matière, ça dépend les costumes, etc. Mais on est dans l'ordre
en ce
de
moment,
2,
c'est
3
quoi, en ce
ans,
moment
etc. Ouais, voilà.
Ouais. Donc, justement, quand je parle de Disney, vous avez eu la chance justement de participer à cette fête, la fête de Disney. C'était les 100 ans.
Exactement.
Là, vous venez, hein, vous sortez à peine de la tournée des 100 ans de Disneyland. Hein.
Exactement. Là,
vous êtes éreinté, là.
Ouais, là, je suis un peu fatigué, mais c'est de la bonne fatigue, comme on dit.
Ouais.
Nous avons fait
très peu de sommeil.
Très peu de sommeil.
Grosse production.
Exactement.
Et gros carton, surtout.
Exactement. Nous avons fait 175 000 spectateurs, exactement.
Effectivement,
dans
bravo.
Tous les zéniths de France, plus Bruxelles et Suisse.
Ouais.
C'était une production qui a été faite par Géant Productions et avec le magnifique Symphonia Pop Orchestra, qui est un orchestre majestueux qui a donné vie à ce spectacle-là pendant ces 2 mois de tournée qui étaient.
Je voudrais essayer notre réalisateur d'ailleurs pour trouver une petite. Peut-être, je ne sais pas si elle existe, une BO des 100 ans de Disney. Bon, je sais que c'est un magicien, notre réalisateur. Hein. Il est un peu comme vous, il est créateur, lui aussi. C'est un artiste. Hein. Justement, Enna Blal. Ces 100 ans, c'était quoi? C'était de redécouvrir les classiques de Disney? C'était quoi? Des mélodies, comme vous l'avez rappelé, de légendes? C'est quoi? C'était légendes? C'est quoi?
C'était vraiment, comme vous venez de le dire, de découvrir, de redécouvrir ces 100 ans de Disney, ces 100 ans de magie, de faire un mix pour que chaque enfant, chaque adulte, chaque personne retrouve son dessin animé d'enfance et qu'il se retrouve dans cet univers Disney. Donc, on est passé un peu par tous les dessins animés, que ce soit Le Roi Lion, que ce soit La Reine des Neiges, etc. Chacun devait trouver un peu son compte là-dedans. Et surtout, c'était magique parce qu'il y avait des chanteurs qui...
Combien d'artistes et combien d'heures?
Alors, il y avait une soixantaine de musiciens qui étaient sur scène, qui interprétaient cette musique-là. Il y avait des super chanteurs dans des voix officielles Disney comme Cerise Calix, Charlotte Hervieux et d'autres artistes qui sont incroyables comme Sylvain Bertrand, Camille Ménard, Judith, etc.
Alors toutes les chansons, on les connaît, c'est les classiques, c'est Cendrillon, Aladdin, La Petite Sirène, Le Roi Lion, La Bête et la Bête, c'est ça hein?
Exactement.
Tarzan.
Exactement.
Et etc, etc.
Exactement.
Et vous avez eu, alors je vous avais eu une chance incroyable. Comment vous vous êtes fait repérer justement? Parce qu'on a fait appel à vous.
Oui,
à votre savoir-faire.
Exactement.
Pourquoi vous et pas quelqu'un d'autre?
Bon, bah, c'est franchement.
C'est quand même les 100 ans, on fait appel à vous. C'est dit, allez, il y a la grosse production, voilà. C'est vous qu'on a choisi pour
c'était un peu le challenge aussi. Moi, je suis un amateur des challenges. J'ai un recul qui est assez. On va dire, j'ai un recul sur la vie. Du coup, je prends les choses comme elles arrivent. Il y avait un gros challenge. Il y avait quand même 280 costumes à faire en 2 mois.
280 costumes en 2 mois.
Mois.
Donc, mais ça relève d'une prouesse incroyable.
C'était un défi qui était grandiose. Voilà. C'était un gros défi. Ouais.
Ouais.
À créer et à composer.
À créer, oui, bien sûr, à créer. Hein, ouais.
Il y avait de la création. Il y avait, voilà, on avait 52 danseurs qu'il fallait habiller sur plein de tableaux différents.
Mais vous n'étiez pas tout seul, vous avez une équipe quand même.
Ouais, j'avais une équipe, mais c'était un gros travail des recherches parce qu'il faut savoir que la création aussi passe pour tout le respect des tableaux Disney. Donc il y a des connotations à respecter, il faut que ça rentre dans les codes, il faut que le costume soit justement dans cet univers Disney. Et oui, c'était vraiment voilà, c'était vraiment une grosse épreuve et on l'avait fait.
Gros challenge
fait.
Aussi. Hein.
Gros challenge, on l'a fait. On a fait pareil la défense.
Ça vous a effrayé quand on a fait appel à vous?
Non, j'ai ça. En fait, comme je disais tout à l'heure, c'est que en fait j'ai un recul qui est assez important, donc j'ai cette chance de ne pas stresser.
C'est bien, bravo.
Voilà, donc j'ai pris les choses comme elles sont. Je savais qu'il fallait aller en avant.
Et pourquoi vous avez choisi vous?
Faudra demander au directeur artistique Jean-Philippe Fournier et Fleur, ça, et puis le metteur en scène, ça, on a discuté. Tout de suite, ils ont été, on va dire qu'on a été dans la même longueur d'onde au niveau de la création. Et ce que j'ai proposé, ça leur convenait très bien. Voilà, on est parti là-dedans, parce qu'il y avait d'autres personnes.
Donc le défi, vous l'avez relevé?
On va dire ça a été relevé. Après, on a fait la tournée, donc c'est super.
Quel bilan vous tirez maintenant que vous avez le recul nécessaire, justement? Quel bilan vous dressez, vous brossez évidemment, au bout de combien de tournées? Vous étiez dans toute la France? Ça représentait combien de représentations?
24
représentations.
Exactement.
Quel bilan dressez-vous?
Je sais pas si je parlerai d'un bilan parce que l'année prochaine on recommence.
Ouais.
Mais
vous remettez ça l'année prochaine?
Exactement. On recommence en novembre.
Toujours les 100 ans.
Du coup, ça sera Disney en concert.
Les 100 ans. Ah, bien, ils sont malins. Voilà. Les 100 ans, puis maintenant Disney en concert. Ça. Puis l'année prochaine, ils vont nous sortir Disney en je sais pas quoi.
Oui, c'est ça, parce que le Disney en concert, ça existait déjà. Donc là, c'était les 100 ans Disney. Et l'année prochaine, on recommence la tournée qui va commencer le 8 novembre.
Le bilan?
Bon
bilan?
Ouais, très bon bilan. Franchement, c'est un bilan incroyable, comme je disais tout à l'heure, avec des spectateurs qui étaient ravis, avec des personnes qui étaient épanouies. Et surtout, sur cette tournée, on avait cet univers famille, cet univers des voyages dans les tourbus, qui avait tous les artistes ensemble. Donc, c'était vraiment un moment qui était inoubliable. Et moi, voilà. Et moi, ça m'a fait grandir énormément. Ça m'a fait découvrir aussi. Beaucoup d'aspects que j'avais pas exploité jusqu'à maintenant, donc c'est un bilan très positif.
Est-ce que Enab Blal, vous vous êtes découvert aussi?
Exactement.
C'est vrai?
Exactement. Ouais. Oui, parce qu'il faut découvrir.
Dans quel sens?
La réactivité, l'adaptation, la course, le partage avec les autres, le vivre ensemble avec des personnes dans un espace qui est assez réduit. Donc voilà, on découvre beaucoup de facettes des vies qu'on n'avait pas d'habitude. Moi, que j'avais l'habitude de rentrer chez moi et être tranquille. Là, on est quand même dans un tourbus. Il faut qu'on soit tous ensemble. Mais c'est des choses qu'on se dit. C'est quand même incroyable parce que ça dépend de la situation qu'on vit. On peut toujours s'adapter. Et c'est ça qui est beau. Finalement, on s'en sort très bien avec tout ça. Donc, non, franchement, ouais. Une belle découverte.
Et comme si ça ne suffisait pas, justement, Enab Blal, vous allez vous lancer dans d'autres projets. Celui de Titanic.
Exactement. J'ai une production.
Et un autre?
Voilà, c'est Maiden de Force, qui est justement créé par le Symphonia Pop Orchestra, qui va être incroyable au Grand Rex de Paris le 4 mai. Donc pareil, avec 70 musiciens,
wow.
60 choristes, énormément de
costumes. Et là aussi, ce sera de la création de mode.
Exactement. Il y aura de la création, il y aura sûrement des costumes qui vont être des associations, etc. Et le Titanic, ça va être trois dates, le 9, 10 et 11. On va commencer par Paris.
Février.
Après, ça va être Lille. Et le 11, ça va être Lyon.
Février.
Donc voilà, février.
Mais il faut faire gagner des places, cher ami. Vous venez pas comme ça gratuitement.
On va vous faire gagner des places. Il n'y a aucun problème.
pour Titanic.
Sur les réseaux.
Les auditeurs, ils attendent qu'une seule chose, c'est qu'on leur offre des places. C'est normal.
Exactement.
Pour Titanic.
On va vous annoncer
parole
ça
donnée,
sur les
hein.
réseaux. Parole donnée.
Je vous rappellerai sur votre téléphone et vous passerez en direct pour faire gagner des places.
Problème,
on est d'accord, quelques jours avant.
Exactement.
Pour Disney. Hein.
Pour Maiden de Force.
Pour Disney, vous avez la main pour Disney de faire gagner des places ou pas?
On peut faire gagner des places pour Disney.
Attention, les auditeurs, ils entendent. Hein, attention.
Il n'y a aucun problème.
Écoutez, c'est enregistré. Justement, on arrive au terme de cette émission. Franchement, vous, évidemment, lorsqu'on est jeune créateur comme vous de mode et costumier, comment vous voyez les perspectives de votre avenir? Comment vous voyez vos ambitions?
Alors, les ambitions, elles sont très grandes. Quand on est dans un milieu comme
vous
ça...
Vous voyez en Karl voilà. Lagerfeld ou pas? C'est ça?
Ça serait futur incroyable. Karl Lagerfeld, ouais. Ça serait incroyable. Il ne faut jamais s'arrêter. On va dire qu'on est passionné. Il faut toujours suivre ses passions. Bien sûr, il ne faut pas aller plus vite que la musique. Je suis jeune. Il faut quand même toujours respecter ses tempos. Ne pas se brûler les ailes avant l'heure. Toujours être dans cette... qualité de travail, etc. Il y a toujours une limite de vouloir faire très vite et de ne pas respecter la qualité de travail. Donc, il faut avancer. J'espère avancer très loin. Il y a beaucoup de projets qui arrivent, notamment avec ma marque de vêtements, etc. Donc, voilà. Donc,
la marque de vêtements de Enablal. Merci infiniment et bon courage. Bravo d'abord pour merci. Tout ce que vous faites. Et on se retrouve très vite pour faire gagner ces fameuses places. Hein.
Exactement.
On est d'accord ?
Je viendrai vers vous.
Sans au plaisir de vous retrouver. Et bravo, merci. Évidemment, pour votre parcours Enablal. Le rendez-vous est noté. On a déjà des auditeurs. Tiens, Delors de Montparnasse, Mousse de Toulouse, 0153483000. Juste après, c'est le face-à-face avec ils sont déjà prêts les messieurs, hein. Amin Saag, Amal Abina, Baptiste Ménard, à tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. 19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Et les informés, c'est parti, vous savez, c'est le face-à-face avant de retrouver nos auditeurs.
Les informés. Le face-à-face.
Baptiste Ménard, qui est adjoint au maire, mais il est cette année élu, de la ville de Mons, absolument. Comment ça va? Bonne année.
Très bien, bonne année à vous, à toi et bonne année à vous.
Amin Saag, qui est un élu à la Courneuve, bonne année.
Bonne année à vous, monsieur Farkan, et bonne année
merci.
Aux auditeurs.
Ben, aux auditeurs surtout. Gamal Abina, le porte-parole du MDC.
Bonne année à tout le monde.
Bonne année.
Que de la joie et du bonheur.
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aussi?
Moi, de l'argent.
Et bien de l'argent alors. Tiens, allez les auditeurs ont la parole avant de lancer le débat. Allez, c'est parti.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Ouais, parce que je voudrais parler des maires justement qui sanctionnent les familles de délinquants. Mousse de Toulouse, bonsoir Mousse.
Allô, oui, bonsoir.
Bonsoir Mousse, bonne année.
Bonne année, meilleurs vœux.
On vous écoute, bienvenue.
Merci. Non, je voulais simplement intervenir moi par rapport aux parents et par rapport aux enfants qui sont.
Ben justement, très bon sujet. Parlons-en.
Et ben justement, j'en ai un petit peu marre. J'en ai assez d'entendre parler des parents comme des coupables. Donc, moi, je travaille dans l'animation. J'ai 47 ans et des parents, j'en croise régulièrement, j'en vois régulièrement qui malheureusement n'arrivent pas à gérer justement les difficultés avec leurs enfants.
Oui, oui.
Donc, et c'est vrai que de voir les parents tout le temps, qu'on montre du doigt les parents en disant c'est la faute des parents, il faut sanctionner les parents, ça commence à devenir pathétique, quoi. C'est honteux parce que c'est vraiment une difficulté, c'est une grosse difficulté pour les parents. Et à l'heure d'aujourd'hui, bien, j'ai l'impression que l'État n'est pas beaucoup, n'est pas grand-chose à la disposition des parents. Donc, si on pouvait justement plus axer les choses vers l'aide, un soutien aux parents, je pense qu'on arriverait, avec de la bonne volonté, bien entendu, on arriverait à trouver des solutions et permettre à ces parents de vraiment mieux accompagner leurs enfants.
Merci Mousse parce que vous me permettez une belle transition. Merci pour votre témoignage Mousse.
Mais écoutez, j'espère que ça va faire avancer le...
Ben justement, ce que dit Mousse c'est très intéressant. Baptiste Ménard, vous voulez réagir?
Oui, je rejoins totalement l'auditeur qui vient de s'exprimer, Mousse. Ces faits nous montrent en fait les trous dans la raquette et l'absence d'une politique de la parentalité à la fois menée par l'État ou même par les collectivités territoriales. Finalement, parents, c'est le seul métier qu'on n'apprend pas. Et ces mères, je trouve, si je peux comprendre une forme d'émotion qui peut parfois exister parce qu'ils sont aussi confrontés à des concitoyens qui leur demandent des comptes, je pense qu'il ne faudrait pas transformer la situation et finalement créer une forme de responsabilité des faits d'autrui. On ne va pas rendre responsable de faits si votre enfant commet un délit. Ça n'est certainement pas aux parents à qui il faut l'imputer et les élus n'ont pas à se substituer à la justice. Donc, s'il y a eu des faits délictuels, ils doivent être condamnés sévèrement, mais c'est à la justice de le prononcer, et c'est certainement pas à des élus de la République, quand bien même l'indignation est légitime. Donc, moi, je pense que ces faits-là doivent plutôt nous faire réfléchir à quelle politique de la parentalité nous pourrions mettre en place, comment mieux accompagner les parents, comment faire en sorte effectivement de leur apporter du soutien plutôt que de les blâmer, parce que il faut bien le dire, jamais aucun parent n'est satisfait de voir l'un de ses enfants enfreindre les règles, mais il faut aussi comprendre les motivations qui les ont amenés à commettre ces actes.
Amine Sarah, vous êtes d'accord ?
Oui, bien sûr, je souscris pleinement à ce qui vient d'être dit. J'ajouterais quand même qu'il faut être exigeant avec les parents. C'est pas une mauvaise chose que de le dire.
Donc que les mères sanctionnent, vous êtes pour.
Je suis pas pour qu'on sanctionne, par contre. Comme le disait notre collègue, c'est qu'on ne peut pas se substituer à la justice. Et surtout, ce débat, d'abord, je pense que ce maire, il s'agit d'un maire pour l'instant qui a pris l'engagement de ne pas distribuer un chèque cadeau à une famille parce que l'un des enfants avait commis un délit. Enfin, tout ça, c'est la justice qui le déterminera par ailleurs. Mais c'est aussi une manière pour certains élus locaux d'exister sur la scène nationale. On l'a vu aujourd'hui, plus vous faites dans l'outrance, il y a quelques mois, il y avait un maire qui refusait de marier un homme dont l'épouse était sans papier, enfin je sais plus. Mais à chaque fois, tous les mois, on a le droit à un élu local qui nous fait une sortie, et derrière, on sait pertinemment que ça n'aboutit sur rien, c'est juste pour exister sur la scène médiatique et politique. Maintenant, sur le fond, je pense qu'il faut être exigeant avec les parents, il faut leur donner les moyens d'assurer la parentalité, c'est ce que vous disiez à l'instant, mais surtout, il faut arrêter de pointer du doigt toujours les mêmes. Parce que ça sert à ça que ça sert. L'intérêt de ça, c'est de dire, regardez, ce sont les parents de ceux qui vivent dans les quartiers, ouais, noirs et arabes, souvent, qui commettent des délits. Alors que, des parents qui se démènent au quotidien pour essayer justement d'apporter la meilleure éducation possible à leurs enfants, il y en a plein, et malgré ça parfois ils échouent, ça fait partie de la vie, c'est le seul métier qu'on n'apprend pas en effet, et donc il faut être là en soutien, en support de ces familles, et pas les montrer du doigt. Par ailleurs, on a aussi quelques exemples parmi nos élites politiques dont les enfants ne se sont pas toujours comportés de la bonne manière, je vais pas les citer, ça sert à rien, chacun sait de qui on parle.
Gamal Abina, tiens.
Moi, je pas, évidemment, là, ça va être compliqué de débattre en contradictoire parce qu'il n'y a pas de contradiction possible. En vérité, la question de pointer les parents du doigt, c'est une façon très confortable de se désengager de ses propres responsabilités. Il faut se mettre dans la tête d'un parent, parce que c'est facile de dire les parents, les montrer comme ça du doigt, comme une sorte de forme un peu pas très très définie, où on s'imagine bien que c'est les Africains qui sont désignés, l'immigration en règle générale.
Et puis les privés d'aide sociale, est-ce que ça les aide vraiment?
Mais c'est même pas une question des privés d'aide sociale, c'est pire encore.
C'est pire, oui.
C'est une façon de dire, on va vous couper le porte-monnaie si vous tapez pas sur vos enfants. Problème, c'est que c'est pas les enfants. D'abord, les adolescents sont des adolescents, quels qu'ils soient, qu'ils soient riches ou pauvres. De toute façon, il y a une crise qui intervient. Ensuite, ils se battent pas contre leurs enfants, puisque leurs enfants, très souvent à la maison, sont très corrects. Hein. Ils se battent contre la cité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand vous concentrez des gens qui sont en errance, en difficulté, dans des établissements poubelles, je pèse le mot, c'est que c'est des garderies, ce ne sont pas des établissements dans lesquels on donne de l'instruction scolaire. Et que tout le temps, du matin au soir, on vous pointe du doigt comme étant les ratés de la République parce que vous êtes dans des zones qui sont complètement abandonnées. C'est pas des territoires perdus, hein, c'est des territoires abandonnés de la République, faut le rappeler, hein. Tout le social a sauté, l'exigence scolaire n'est pas au rendez-vous, les profs sont toujours absents, jamais remplacés. Il y a une véritable abandon, et quand on parle de banlieue, c'est bien des lieux qui sont au bord de la société. Et bien, je dirais simplement que une façon de pointer les parents du doigt, c'est une façon très lâche de ne pas assumer ses responsabilités. D'abord, si on avait des établissements où il y avait 20 élèves par classe et non pas 35, ça ferait une petite différence en termes d'autorité des professeurs. Ensuite, si les établissements avaient de l'argent pour donner des moyens d'instruction de qualité, on aurait peut-être une tension moins forte. Ensuite, si on avait des quartiers qui étaient plus entretenus, beaucoup moins sous la pression policière, mais plus sous l'assistance, entre guillemets, de gens qui vont éduquer, comme les grands frères, c'était le cas à l'école. Si on donne des espoirs à des gens de réussir leur vie, non pas un désespoir où on dit essaie de t'en sortir, c'est déjà bien, on leur dit pas réussissez. Si on s'en sort, c'est bien, bah il y a un problème. Donc la lecture des choses, c'est de dire les parents sont responsables, c'est une nouvelle mode, ça a 2-3 ans cette histoire, pour ne pas se responsabiliser. L'État est responsable de ce qui se passe dans les quartiers. Et l'État peut désamorcer les problèmes s'il y met les moyens. Pas en faisant du ripolin, pas en faisant des immeubles, c'est pas suffisant, mais en créant des conditions économiques qui soient acceptables pour que les gens puissent travailler.
Pas faux. Tiens, on va accueillir Fatima de Paris, on va voir ce qu'elle pense, Fatima. Bonsoir Fatima, bonne année.
Bonsoir Adil.
Bonne année à vous.
Bonne année à vous, à vos invités. Bonne année. La santé pour tout le monde.
Merci infiniment. Merci à vous aussi. Voilà. On vous écoute alors pour
moi,
les maires.
Moi, je suis d'accord pour ce qu'a dit le monsieur juste avant...
Baptiste.
Voilà. Voilà. Je suis sur certains points d'accord. Mais pour Alabina, c'est ça, monsieur?
Gamalabina,
voilà. Excusez-moi. Je ne suis pas d'accord du tout. Moi, je voudrais demander à ce monsieur venir à la porte de Saint-Cloud. Mmh. Eh bien, les problèmes de certaines banlieues, alors maintenant, il est à la porte de Saint-Cloud.
Ben alors, vous entendez Gamalabina?
Oui, par exemple.
Voilà.
Je peux l'expliquer?
Écoutez. Vous savez comment on appelle un lycée? Moi, ça fait 30 ans que je suis dans le quartier. Mmh. Et donc, il y a certains... Moi, je suis pour qu'on punisse les parents. Parce qu'il y a certaines familles qui jettent l'opprobre sur tout le monde. Donc, moi, je suis non seulement pour qu'il les dégage des HLM.
Ah ouais, carrément.
Parce que c'est une minorité. C'est une petite minorité qui empoisonne la vie de tout le monde.
Alors, attendez. Fatima, ça fait réagir. On fait un tour de table. Oui. D'abord, Gamalabina vous répond.
Alors, pour commencer, la politique du « on tape et on ne trouve pas de solution », une politique qui mène nulle part. Aux États-Unis, il y a la peine de mort, ça n'empêche pas les meurtres. Il faut être très clair sur un point. On parlait de Saint-Cloud. Il y a un phénomène de mimétisme. Le voyou au grand cœur, le type de banlieue, le wesh-wesh qui s'est répandu partout jusque dans les quartiers bourgeois, qui est une imitation pour montrer qu'on est des durs. C'est un phénomène classique connu qui a toujours existé depuis les années 40, 50, 60. Mais l'idée de se dire qu'on doit taper sur les parents qui très souvent sont désarmés devant leurs propres enfants, avec un système judiciaire qui est défaillant, avec un système politique qui n'était pas forcément au rendez-vous. L'idée de se dire qu'il faut taper pour trouver des solutions, c'est la pire des solutions. Moi, je pense qu'il faut deux moyens. Le premier, c'est trouver les solutions à l'amant pour empêcher les crises et les problèmes. Et le second, effectivement, quand il y a des enfants qui sont très récalcitrants, de le répressif. Mais ne parler que de répression, c'est catastrophique, c'est un discours d'extrême droite. Désolé de vous le dire.
Non, je ne veux pas. Non, ça ne veut pas dire extrême droite. Excusez-moi.
Faut l'entendre, Fatima. Faut l'entendre. Beaucoup pensent comme Adil. Oui, on vous écoute, Fatima.
Adil. Moi, je sais que j'ai été élevée à la dure.
Comme tout le monde.
Voilà. Et tous ceux qui ont été élevés à la dure, ça ne veut pas dire que j'ai été battue ou ceci ou cela. Moi, je sais que dans toute ma famille, dans le voisinage, il n'y a aucune famille qui a des enfants en prison ou qui a des délinquants. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe?
Vous êtes dans quel quartier?
Pourquoi? Parce que les...
Hein? Dans quel quartier vous êtes?
Je ne vous dis pas dans quel quartier.
Ah bah, c'est partout. Ça qui est intéressant.
Moi, je connais... Écoutez, monsieur. Moi, je sais qu'il y a des gens qui habitent Saint-Denis et qui sont professeurs, qui sont architectes, qui sont... Pourtant, ils sont... C'est vrai que les socialistes, ils les ont tassés par nationalité. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais, eh ben, même dans ces quartiers, moi, je vous dis que la délinquance, c'est une minorité de familles. Et même les familles, c'est des délinquants. C'est des délinquants.
Baptiste.
Ne me dites pas le contraire.
Si, je vous dis le contraire.
Voilà. Alors, on les a mis dans les... Smahli. Et on les a mis dans les quartiers, dans le 16e, dans des logements vraiment extra. Allez-y, y demandez.
Dans le 16e.
C'est une minorité, je dis. Oui, dans le 16e. Bien à Porte de Saint-Cloud, face de l'autre jour, je vais vous donner un exemple.
Vous
l'autre
laissez
jour, maison
même.
De la radio. En face, il y a des bâtiments, mais je ne vous dis pas, luxe. Eh bien, il y avait la police avec le fameux machin pour défoncer les portes et tout. Parce que depuis quelque temps, ils mettent certaines familles qui sont bien, mais comme il y a une certaines familles, parce qu'ils sont assez gavés quand même. Alors, au lieu de leur payer des activités, des ceci, de cela, ils sont tout le temps à prime. Et c'est pas moi, je suis algérienne et je connais beaucoup de familles.
Faut entendre ça,
qui sont derrière leurs enfants. Je vous dis pas.
Merci Fatima pour votre intervention. Merci infiniment.
Merci beaucoup.
Baptiste,
merci
qu'est-ce qu'on
beaucoup.
Peut rajouter? Merci infiniment. Merci, on vous embrasse.
Oui, peut-être ce que je pouvais ajouter par rapport à ce qui a été dit et puis aux interventions, c'est aussi que finalement ça questionne la manière dont on a appréhendé la politique de la ville depuis des années. Et donc ça, c'est quand même une vraie question. Et deuxième élément, alors je ne veux pas, c'est pas pour excuser les parents qu'on peut appeler des missionnaires parce qu'ils n'en peuvent plus de leurs difficultés, mais aussi parce qu'ils ne savent plus vers qui se tourner. Et par rapport aux enfants et aux adolescents qui commettent parfois des actes délictuels, ce n'est pas là encore pour les excuser, mais il y a un problème, c'est que l'État ne tient plus la promesse républicaine. Et lorsque l'on a le sentiment que parce qu'on habite dans tel quartier, parce qu'on n'a pas eu les mêmes chances à l'école, parce que les difficultés s'amoncellent, qu'on n'aura pas la même possibilité que quelqu'un, et vous l'avez évoqué dans votre témoignage, Fatima, qui habite dans le 16e arrondissement, c'est un problème. Et donc, la République doit tenir toutes ses promesses à l'égard de tous ses enfants. On ne peut pas, et encore une fois, ça n'est pas pour excuser des actes délictueux qui seraient commis, ils doivent être condamnés. Allez, par la justice.
On se retrouve juste après la pause et on va continuer de évidemment commenter l'actualité. On parlera, vous savez quoi, de ce remaniement, le remaniement gouvernemental. A tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
Les informés reviennent dans un instant. 19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Les informés avec Aminsa, avec Gamal Abina et enfin avec Baptiste Menard. Messieurs, je vais donner la parole à Aminsa avant de retrouver une autre Fatima du 19e, justement, qui a un témoignage un peu précieux. Aminsa.
Beaucoup de Fatima ce soir.
Oui.
Non, juste sur le témoignage de Fatima, la première, qui évoquait notamment la question du logement social et les sanctions qui sont parfois prises à l'égard des familles dont l'un des membres commet des délits. En fait, oui, il y a des sanctions qui sont prises, soit des expulsions, soit des non-relogements, mais elles se basent sur un fondement juridique. C'est-à-dire qu'il y a un contrat qui est passé avec la famille, le contrat de location, qui stipule que le locataire doit maintenir une forme de bonne occupation du logement, de la tranquillité des riverains, etc. Et donc, c'est en vertu de ce manque de respect de cette règle-là que des sanctions sont prises. Là, pour la question de ces fameux chèques de cadeaux, ça n'est basé sur aucun fondement juridique. Et c'est là où ça pose un problème, puisqu'on a l'impression que on généralise tellement, on a l'impression que dans ces quartiers, il n'y a que des familles dont les enfants posent problème. Alors que l'immense majorité, pour ne pas dire la quasi-totalité, sont des familles qui vivent tranquillement et qui ne demandent qu'à vivre tranquillement.
Et bien justement, allons voir Fatima du 19e. Bonsoir Fatima, bonne année.
Oui, bonsoir, bonne année à tout le monde.
On vous écoute, paraît-il que vous avez un précieux témoignage.
Je suis du département 19, exactement, de Brive-la-Gaillarde.
Ah, Brive-la-Gaillarde, d'accord.
Oui. Oui, donc moi j'ai un adolescent, enfin un ado de 12 ans, et ça commence, les bêtises. Et effectivement, il m'en a fait des grosses, des dégâts matériaux.
De quel ordre ?
Moi, pour ma part... pour vous dire, avec deux de ses amis, ils sont allés casser une voiture.
Ouais.
Et j'en ai eu pour très 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 cher de réparation.
Et il me semble pas que madame soit pas éduquée. Il me semble qu'elle a à cœur l'éducation de son enfant, semble-t-il.
Mais en fait, mon inverse, c'est pour ça que je voulais intervenir, parce que je suis pas tout à fait d'accord avec la témoignage de la personne précédente.
Essayez d'avoir une connexion qui soit bonne, parce que. Effectivement, on vous a de façon hachée, vous savez, des petites micro-coupures, Fatima.
Ah, je suis désolée.
Allez-y, non, pas de soucis, c'est pas de votre faute. Mais
je vous disais, moi, mon enfant, c'est le premier, donc là, au niveau de l'adolescence, je pensais pas, j'étais pas préparée. Et en fait, mon enfant, je lui donne vraiment tout ce qu'il veut au niveau éducatif. Vraiment, il manque de rien, il en a même trop, je dirais, par rapport, comparé à d'autres. Et c'est vrai qu'un cadre... Enfin, je suis assez, je fais confiance à mon enfant. Il y a un rapport de confiance. Je suis assez souple et il manque de rien. Et malgré tout, quand je l'ai vu me ramener ce problème, vraiment, je suis tombée de haut. Mon éducation a été remise en question.
Vous faites de votre mieux et malgré ça,
Vous vous rendez compte ce qu'elle est en train de nous dire ? Ouais. Elle dit que je donne une bonne éducation, que je fais tout au mieux, mais je ne comprends pas ce qui se passe.
Comment on peut expliquer ?
Attendez. Il y a Baptiste, Gamal et Amine.
Moi, j'avais juste une question pour
vous. Fatima, elle s'appelle.
Oui, j'avais juste une question pour vous, Fatima. Qu'est-ce qui vous a dit votre enfant pour justifier son acte ?
Il m'a dit on est allé s'amuser et on ne savait pas quoi faire. Et pourtant, j'habite vraiment dans le bouc. Hein. Vraiment, je ne m'attendais pas à ce genre de bêtises. Il m'a dit il n'y avait rien à faire. Donc, on a vu cette voiture et...
Donc, en gros, on s'ennuie, quoi. En gros, c'est on s'ennuie.
Voilà.
Donc, comme on s'ennuie, tu envoies cramer une voiture.
Ils sont allés l'abîmer. Moi, comment vous dire je savais pas par où commencer. J'ai été convoquée par la police. Vraiment, les enfants, ils ont été filmés. Et tout de suite, j'ai pas cherché. Tout de suite, j'ai voulu chercher à payer. Donc, j'ai cumulé deux emplois.
En plus.
En plus, je suis allée voir mon assurance. mon assurance responsabilité civile. Vous allez
déjà, vous avez du mal à vous en sortir. En plus, il faut cumuler les emplois. Il faut aller tout ça pour réparer les dégâts de votre fils, évidemment, qui s'est mal comporté. Gamal Abina, quand elle pose la question de je ne comprends pas malgré la bonne éducation que j'apporte.
Bah, moi, j'ai envie de dire que tous les parents aspirent à ce que leurs enfants soient bien et bien éduqués et ne fassent pas de bêtises. Le problème, c'est que le garçon à la maison n'est pas le garçon dehors. Il a les copains, il a les faits de groupe, il a tout un tas de choses. Et là, ce que j'aime beaucoup dans ce que je viens d'entendre de la part de Fatima, contrairement à la première interlocutrice Fatima qui disait des choses extrêmement douteuses, c'est que des parents ne sont pas complices. C'est plutôt délirant d'entendre ça, et que très souvent ils sont surpris du comportement de leur enfant, parce que les mômes à 14 ans, 15 ans sont toujours un peu crétins, suivent le phénomène de troupe et font des bêtises, effectivement, pensant que c'est pas grave, parce qu'il y a un rapport aussi à la légèreté de l'action. Donc la maman qui là est quelqu'un de très éduqué, qui a à cœur l'éducation de son fils, prend en charge les dégâts qui ont été occasionnés, parce qu'effectivement elle est responsable, elle va essayer de responsabiliser son fils, mais elle se bat pas toute seule, elle se bat à la fois contre son fils, mais contre les copains.
Oui, et je voudrais dire, en fait, déjà, qui ça venant de mon fils, j'y croyais pas. Donc, c'était vraiment un choc. J'étais vraiment déstabilisée. J'en ai pleuré pendant plusieurs jours.
J'imagine.
Mon fils,
attention, on vous perd. Hein. On vous a perdu.
Ah, vous répétez ?
Ah, excusez-moi. Bon, je vous disais, mais du coup, j'ai demandé à faire un stage, moi, à la maison des ados. Parce que je me suis dit, les gens dans l'adolescence, et je suis pas. J'ai pas les outils, j'ai pas les moyens, moi, pour. Pour savoir ce qui lui arrive, comment, enfin, les transformations qu'il a, il grandit. Et je ne l'ai pas vu venir.
Ouais. Un grand merci pour le témoignage.
C'est important ce témoignage. Merci en tout cas de nous appeler, Fatima, parce qu'il est précieux votre témoignage. Effectivement, on me l'avait souligné. Aminsa, qu'est-ce que vous lui
répondez ? Très précieux, parce qu'en fait, ça témoigne d'une réalité en fait, que tout le monde a connue en tant que parent. Alors, parfois dans des proportions un peu différentes, mais la réalité, c'est que d'abord, il y a l'adolescence. La période d'adolescence, on sait à quel point c'est des chamboulements pour l'enfant, ou enfin, en tout cas le jeune adulte. Mais tout ça nous révèle quand même une chose, c'est que on peut faire tous les efforts du monde, on peut être le meilleur parent, donner la meilleure éducation, et malgré ça, eh ben on n'est pas à l'abri que nos enfants fassent des bêtises à l'extérieur, et tout le monde peut être confronté à ça, même les gens qui vivent dans les beaux quartiers et qui ont une position sociale peut-être plus aisée que les autres.
Fatima, aujourd'hui votre fils, est-ce qu'il a compris le message ? Est-ce qu'il s'est calmé ? Est-ce qu'il saisit, si vous voulez, toute la responsabilité qu'il a lorsqu'il a saccagé comme ça le véhicule avec son copain ?
Ben moi, j'ai demandé à la police de lui faire des travaux d'intérêt généraux. C'est moi qui ai demandé, parce que je ne voyais pas l'utilité de donner 3300 euros, parce qu'on l'a divisé par 3, donc moi j'en avais pour 3300 euros. Donc j'ai vendu ses affaires, sa trottinette, sa PlayStation. Et vu que ça ne couvrait pas toutes les dépenses, ben je me suis dit que je vais partir les 5 dimanches en plus. Mais par contre, je voulais que lui, il aille travailler chez la...
Et aujourd'hui, comment il réagit aujourd'hui ?
Pour la commune, pour la mairie. On n'a pas fait autre. Mais
on n'a pas entendu. Comment il réagit aujourd'hui ? Comment il se comporte ?
T'attends,
c'est... Ah, c'est dommage que ça coupe, hein. J'aurais voulu avoir quand même ce...
Je disais, je fais attention à ses fréquentations.
Vous faites attention à ses fréquentations,
oui. Oui, et par contre, je lui fais encore confiance, mais je suis plus encore à cheval derrière lui. Je lui demande plus de me rendre compte de ses journées, de ce qu'il a fait. C'est dommage d'en arriver là, mais je suis obligée. Le temps qu'il sorte de l'adolescence, je me dis, j'ai pas le choix.
Ouais. Une question indiscrète, peut-être ? Ouais. Une question. Vous êtes toute seule ou il y a le papa aussi ?
Il y a le papa, mais il est trop dur.
Ah, ok, d'accord.
Et moi, j'aime pas ça, du coup, je.
Vous le couvrez un peu, quoi.
Voilà. Enfin, c'est très difficile de trouver un juste milieu, mais.
Courage à vous, en tout cas.
Vous êtes très courageuse et vous êtes un modèle de courage.
Absolument. Courage, Fatima. Bon courage à vous et respect, en tout cas. Merci. Et ne lâchez rien, surtout. Merci, Fatima. Je voudrais, avant de retrouver le Quoi de Neuf, parce que ça file, avant de retrouver Pascal Boniface, je voudrais juste qu'on fasse un tour de table sur ce fameux remaniement dont tout le monde parle. Aminsa, alors, ce fameux remaniement, est-ce qu'on a des billes ? Est-ce qu'on a des éléments ? Est-ce qu'on a des éléments de langage ? Est-ce qu'on a des éléments tout court ? Est-ce que ça va, certains disent que ça risque de se produire ce week-end, peut-être la semaine prochaine ? Il y a des noms qui circulent, dont Sébastien Lecornu, des personnalités de droite.
On parle surtout d'un remaniement qui pourrait avoir lieu ce week-end, ou voire même avant le week-end, donc ça veut dire demain. Et puis c'est même pas un remaniement en réalité, parce que si Elisabeth Borne est débarquée de Matignon, c'est l'ensemble du gouvernement qui tombe. Donc c'est un changement, c'est un nouveau gouvernement qui arrive. Alors sans doute qu'il y a certains membres du gouvernement seront reconduits. Je pense qu'un Gérald Darmanin va continuer parce qu'il a donné sa démission il y a 3 semaines. Ça me paraît bizarre de ne pas le reconduire aujourd'hui. On parle d'un Julien de Normandie qui pourrait faire son retour
c'est
au gouvernement.
Qu'on parle de Julien de Normandie.
Alors moi je pense que Julien de Normandie va jouer un rôle très important dans la seconde partie de ce quinquennat, parce que c'est un fidèle parmi les fidèles de Macron, peut-être même aller jusqu'à entrer à Matignon. On sait qu'il était un peu en rivalité avec Bruno Le Maire. Bruno Le Maire pourrait sortir du gouvernement après près de 7 ans au gouvernement sous Macron. Et donc,
et si c'est Julien de Normandie qui était ministre de la Ville et ministre de l'Agriculture, c'est une bonne nouvelle ?
Ah, je pense que ça peut aller même au-delà. Alors, bonne nouvelle, non, parce que moi, je suis à peu près en désaccord avec tout ce que propose Emmanuel Macron depuis le début de ses mandats. Mais la réalité, c'est que alors il a besoin de se redonner un nouveau souffle, parce que à part la dissolution, il reste plus beaucoup de marge de manœuvre. Donc là, il change de gouvernement pour donner l'impression que il repart dans la bataille pour cette deuxième partie du mandat. Mais la réalité, c'est que Baptiste, il ne propose rien de nouveau.
Avant de retrouver le coin neuf.
Tout ça malheureusement n'est pas très sérieux. C'est un fumigène. Ce sont des artefacts de communication. Parce que la seule question qui intéresse les Français, c'est pas si c'est Madame du genou ou Monsieur du chemin. La seule question qui intéresse les Français, c'est de savoir quelle politique va être conduite. Aujourd'hui, nous avons une droitisation qui sera donc sans doute confirmée par l'arrivée encore de ministres de droite. Oui, non, mais en tout cas, il y a une pente qui a été prise, et depuis maintenant plusieurs mois, avec la réforme des retraites, la réforme de la loi immigration. Donc, les personnes importent peu. C'est la politique qui est conduite. Macron ne va pas se remanier lui-même. Il y aura toujours une surdité vis-à-vis des élus locaux. Il y aura toujours une méfiance ou un mépris des parlementaires. Et il y aura toujours une absence de cap sur les sujets qui préoccupent les Français, le pouvoir d'achat, le climat, la santé, le logement.
Exactement. Avant de donner la parole à Pascal Boniface, Gamal Abina, ce remaniement.
Très rapidement.
Vous êtes d'accord avec Amine Sahal, le nom qui circule, Julien
Normandie ? Non, mais moi je pense que Madame 49.3 va rester en place, je suppose. Ce qui est sûr, c'est que... Oui, elle s'appelle 49.3 maintenant. Ce qui est sûr, c'est que ça n'a aucun intérêt. C'est pas eux qui dirigent, c'est Monsieur Macron. Le Parlement ne compte que pour rien et on passe les lois en 49.3. Donc ce petit baratin comme ça de politique politicienne ne m'intéresse pas du tout.
Le quoi neuf, c'est parti. Il est clair.
Informé. Le quoi de neuf.
Le quoi de neuf avec Pascal Boniface. Bonsoir Pascal Boniface. Bonsoir. Allô ?
Bonsoir.
Ah oui. Bonsoir, bonne année mon cher Pascal Boniface.
Bonne année à tous les auditeurs.
Merci infiniment.
Le meilleur dans une année difficile.
Géopolitologue, mais également aussi le père fondateur, le directeur fondateur de l'Institut Léris. Je vous lance parce que vous avez décidé de nous consacrer votre billet d'humeur aujourd'hui, ce soir, pour cette rentrée, eh bien, le Hezbollah, Israël, la géopolitique. On vous écoute.
Oui, les choses vont mal au Proche-Orient, entre à Gaza, à Israël et le Liban. Elles pourraient empirer. En effet, avant-hier, il y a un drone, une attaque israélienne a tué à Beyrouth le numéro 2 du Hamas. C'est la première fois depuis très longtemps qu'Israël exécute un haut responsable du Hamas en dehors de Gaza ou en dehors de la Cisjordanie. Et il le fait à Beyrouth, dans un fief du Hezbollah. Et donc la question que tout le monde se pose, est-ce que le Hezbollah va répliquer ? On sait que après l'attaque du 7 octobre, certains se posaient la question de savoir si le Hezbollah allait ouvrir un deuxième front pour affaiblir Israël. Le leader du Hezbollah avait dit non, en fait, le Hamas a un programme national palestinien, nous c'est autre chose et on ne fait rien. Et puis on sait que le Hezbollah est à la fois l'allié de l'Iran, mais c'est également un mouvement national libanais et qu'il est comptable devant l'opinion libanaise de ses actions. Or, il y a eu un affrontement entre le Hezbollah et Israël en 2006, affrontement qui a été très coûteux pour Israël parce qu'elle y a perdu pas mal de soldats et puis aussi elle a fait preuve en fait qu'elle n'était pas tout à fait capable de venir à bout de ce qui n'était pas une armée, mais une milice, mais elle a coûté extrêmement cher au Liban, dont une grande partie du pays a été détruite, il y a eu beaucoup de destruction. Et donc les Libanais ne veulent pas que le Hezbollah se lance dans un conflit contre Israël, ils ne veulent pas que le Liban devienne comme Gaza, quoi. Mais il y a en Israël des gens qui se disent, les plus extrémistes, on va avoir la peau du Hamas à Gaza, ce qui entre nous n'est pas certain, eh bien on va également se débarrasser du Hezbollah, et comme ça, on sera tranquille pour longtemps. Et donc, on peut penser que cet assassinat du numéro 2 du Hamas, c'est un peu une façon de provoquer le Hezbollah, pour le faire rentrer dans un conflit, pour pouvoir l'exécuter. Le Hezbollah est coincé. Rentrer dans la guerre, c'est risquer quand même d'être discrédité aux yeux des Libanais, y compris dans certains secteurs de chiites. Mais ne rien faire, c'est aussi perdre en crédibilité parce que Israël se sentira autorisé de continuer à éliminer des responsables du palestinien à Beyrouth, voire des responsables du Hezbollah. Et donc voilà, chacun est un peu au bord du gouffre. Chacun espère que sa réaction n'entraîne pas une réaction de l'autre. Mais c'est ainsi que peuvent des fois avoir lieu des engrenages. Et disons que Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, vient en tournée pour essayer de calmer le jeu. Mais pour l'instant, depuis le début de ce conflit, on voit que les Américains ne sont pas parvenus à calmer le jeu parce qu'ils n'ont pas réellement de levier, ou plutôt ils ne veulent pas se donner de levier vis-à-vis d'Israël.
Bravo pour ce billet d'humeur, effectivement, comme chaque jeudi, et à jeudi prochain sans faute. Merci, très belle soirée, mon cher Pascal Boniface.
Merci Adil, à bientôt.
Et au plaisir, géopolitologue, directeur fondateur de l'Institut Léris. Et je rappellerai aussi tous ces ouvrages, allez vous les vous procurer, hein. Très très bons ouvrages, notamment géopolitiques pour vous tous d'ailleurs, je les rappelle, hein, tout surtout. Baptiste Menard, à bientôt.
À bientôt, merci beaucoup de votre invitation.
Revenez vite.
Avec plaisir.
Aminsa, au plaisir.
Toujours,
fidèle au poste. Gamal Abina, toujours. Hein.
Ah, bien sûr.
Ouais, toujours. À la réalisation, merci Foudil. Thème Sport avec Bilal Nedman, 20-21, et ensuite c'est Vanessa, 21-22. Kim, demain matin, et à demain avec autant de plaisir, mais surtout, comme d'hab, on ne change pas pour 2024.
Bah, on lâche rien.
On lâche rien.
19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.